du Nord Kivu, les FRDC et le M23 s'affrontent dans le territoire de Rutshuru depuis quelques jours. L'état-major commandement Sokola 2 se dit déterminé à ne pas laisser le M23 se réorganiser pour attaquer une fois de plus le territoire congolais. Comment analyser la réapparition du M23? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois M. le gouverneur Julien Paluku. Bonsoir M. le gouverneur.
Oui, bonsoir M. Alain, bonsoir à tous les auditeurs de la radio 4.
Vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu, merci. Maître Omar Kavota, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes coordonnateur et directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme CEPADO, une ONG congolaise basée au Nord Kivu. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est professeur Arsène Mouaka. Il est député national de l'opposition et président du parti politique DCFN. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Pendant deux jours, les forces armées de la RDC ont traqué les combattants du M23 dans la région de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Hier encore, l'on a signalé des affrontements sur la colline Songa et Kitagoma dans le groupement Busanza. Pour en parler, nous avons en ligne Gisèle Cage, l'une de nos correspondantes dans la province du Nord Kivu. Bonsoir Gisèle.
Bonsoir Alain Hirong et bonsoir à tout le monde.
Pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuellement dans le territoire de Rutshuru?
Bon, la situation en tout cas est relativement calme. Les forces armées de la RDC ont toute la journée de ce jeudi mené des opérations de ratissage dans la zone, notamment dans les endroits où l'on a signalé la présence des éléments résiduels du M23. Lors des affrontements d'hier mercredi, les FARDC disent avoir récupéré plusieurs armes et munitions abandonnées par les combattants qui se sont repliés vers l'Ouganda, leur lieu de provenance. En clair, plusieurs combattants ont été chassés du groupement Busanza et plusieurs autres tués lors des affrontements. Voilà ce que nous pouvons donc dire pour l'instant.
Peut-on confirmer, Gisèle, finalement que le M23 était revenu sur le sol congolais pour d'autres actions militaires contre le gouvernement?
Il faut dire qu'il y a un mois environ, quand le gouverneur du Nord Kivu avait annoncé l'incursion des éléments du M23 sur le sol congolais, et précisément à Rutshuru, plusieurs observateurs ainsi que certains élus avaient dénoncé une machination du gouvernement. Mais aujourd'hui, les populations de Rutshuru elles-mêmes ont confirmé donc la présence des combattants du M23 sur le sol congolais. Et nous avons eu l'occasion de parler cette semaine avec quelques combattants capturés par le FARDC et détenus à l'état-major commandement Sokola 2 ici à Goma. Ils disent avoir quitté le camp militaire de Biyonga en Ouganda à bord des bus qui les a transportés jusqu'à la frontière avec la RDC. Et là, ils auraient traversé la frontière à pied à partir de postes d'entrée non contrôlés par l'armée. Une fois dans la forêt, un comité d'accueil les attendait. Armes et munitions leur ont été distribuées. D'après eux toujours, c'est à partir de là qu'on leur a déterminé leur vraie mission, commencer une nouvelle rébellion contre le gouvernement congolais. Entre-temps, c'est dire que l'armée avait déjà pris toutes les dispositions pour contrer leur action.
Et pour terminer, Gisèle Cage, peut-on dire que tous les combattants ont été aujourd'hui chassés?
Difficile de le dire pour l'instant, car on signale encore quelques éléments du M23 dans la réserve de gorilles de Sarambwe, c'est en secteur nord du parc national de Virunga, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, et c'est là que serait le chef militaire du M23, Makenga Sultan, avec une centaine de combattants selon des témoins. D'autres combattants dirigés par Bonusa Joseph, cet ancien colonel de FARDC, se serait dirigé vers le groupement de Tombo, toujours à Rutshuru. L'armée, elle, promet de suivre toutes les pistes afin d'arriver, en tout cas, à mettre hors de cas de nuire cette rébellion.
Merci Gisèle Cage et bonne soirée à Goma.
Merci.
Monsieur Julien Paloukou, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. On a suivi, Gisèle le disait tout à l'heure, il y a presque un mois, vous dénonciez le fait que les éléments du M23 préparaient une incursion contre la RDC. Monsieur le gouverneur, aujourd'hui, il y a des affrontements. Visiblement, vous avez prêché dans le désert, puisque il semble transparaître qu'aucune mesure n'ait été prise pour contrer cette incursion, monsieur le gouverneur.
Non, je pense que je dois dire que je suis heureux que votre collègue Gisèle Cage ait parlé suffisamment de cette question. Et je parie que si Gisèle Cage n'était pas de la radio Capi, on lui aurait jeté des pierres. Mais heureusement qu'elle est d'une radio de la paix, une radio qui est au milieu du village. Elle vient de donner exactement la version qui est sur le terrain. Je ne peux pas prêcher dans les déserts. Vous vous rappelez que cette question date de très longtemps. Après la défaite du M23, ils sont repliés à l'Ouganda. Ils parlaient de 1700 personnes. Après, ils sont revenus. J'avais dénoncé en novembre, et puis les gens ne m'ont pas cru. En janvier, j'avais dit la même chose. Les gens ne m'ont pas cru. Et puis, ils sont venus, effectivement, comme vous l'avez suivi dans les reportages. Ils se sont infiltrés à travers le parc. Vous savez qu'il y a une immensité du territoire du Nord Kivu. Ils se sont infiltrés dans le parc et ils se sont retrouvés à Matebe, c'est à côté de la centrale hydroélectrique. La mission, c'était de détruire effectivement la centrale hydroélectrique, comme à l'époque du CNDP du M23, ils avaient détruit effectivement la centrale de l'eau et la population de Rutshuru et de Kiwanja avait manqué de l'eau à cette époque. Ils sont venus détruire la centrale et effectivement, la population, et je dois féliciter la population de Rutshuru, c'est elle qui a signalé au FRDC la présence de ces éléments à côté de la centrale de Matebe, et tout de suite, les forces armées sont allés les déloger là-bas avec leur puissance. Ils ont fui vers le groupement de Busanza. Nos forces armées les ont poursuivis là-bas. Le bilan est très lourd. Si j'en parle, ça va scandaliser les gens. Ils ont fui vers l'Ouganda. Et de l'Ouganda, là, nous avons noté 68 éléments de l'ex-mouvement M23 qui ont été reçus par la partie ougandaise. Et à l'heure qu'il est, nous avons toutes les images de ces éléments qui ont été reçus par les Ougandais.
Monsieur le gouverneur.
Donc, nous réjouissons au moins que nos forces armées aient réalisé un travail important avec l'appui de la population de Rutshuru qui ne veut plus entendre parler de ces gens.
Mais monsieur le gouverneur, je reviens sur ma question. Vous avez dénoncé, il y avait des éléments probants, mais pourquoi des mesures n'ont pas été prises pour contrer cette incursion, au lieu d'attendre qu'il y ait des affrontements aujourd'hui?
Des mesures ont été prises. Je vous dis que les éléments sont
inefficaces
comme toutes. Tout habitant, ils sont entrés sur le territoire national. Si des mesures n'avaient pas été prises, eh bien, ils auraient pris le territoire de Rutshuru, ils auraient contrôlé une colline, ils se seraient installés. Mais pour vous montrer que nos forces armées étaient prêtes, ils n'ont pas résisté pendant 30 minutes là où ils ont cru devoir venir prendre la centrale de Matebe. Et là où ils se sont repliés à Busanza, ils n'ont pas résisté pendant 30 minutes. Ils ont subi des revers. J'ai dit que je ne peux pas vous scandaliser avec le nombre de morts qu'ils ont connus. Donc c'est pour vous montrer que nos forces armées se sont préparées à cette incursion et ont dit depuis la victoire de novembre 2013, il n'y aura plus un seul mouvement qui va déstabiliser la RDC, d'où qu'elle vienne et de quel appui qu'il est, du Rwanda ou du Burundi, parce qu'on est fatigué avec le jeu de cache-cache et d'hypocrisie qui est dans la région de Grand Lac.
Vous parlez du jeu de cache-cache dans la région de Grand Lac. Ces éléments du M23 se sont repliés vers l'Ouganda. Peut-on considérer que l'Ouganda est leur base arrière?
Mais il n'y a plus rien à cacher. C'est leur base arrière. Ils étaient dans le camp de Dianga. En novembre, Makenga a quitté le camp de Dianga. L'Ouganda, qui avait nié lorsque j'avais dénoncé le 15 janvier 2017, avait nié des jours après, mais parce que l'alerte était tellement grande, quelques 4 jours après, l'Ouganda a essayé un peu de couvrir ce qu'elle avait nié par une déclaration disant qu'il venait d'arrêter 101 éléments en Barara avec 40 éléments qui se sont volatilisés dans la nature. Et nous pensons que ce qui s'était volatilisé, ce sont ceux qui ont tenté d'attaquer la RDC. La base arrière, c'est bien l'Ouganda. Et vous avez suivi les 29 janvier 2017, le Rwanda à son tour en train de dire qu'il a attrapé une trentaine d'éléments qui ont fui les combats entre les FARDC et eux. Ils ont replié sur leur territoire. Non. Et l'Ouganda et le Rwanda ont reconnu qu'il y a des éléments qui ont fui les combats
entre les FARDC et eux et qui auraient prié sur leur territoire. Et ça, c'est en violation de l'accord cadre qui avait été signé en son point 5, qui disait clairement qu'aucun pays signataire de cet accord ne peut héberger sur son sol des gens qui ont la mission d'attaquer les autres membres de la CIRGL et signataires du même accord. C'est ça ce que nous dénonçons tout le temps depuis que nous sommes à la tête de la province.
Monsieur le gouverneur, il y a eu une lettre du M23 signée par son président Bertrand Bissimois. Cette lettre est du 22 février. Elle porte le titre « Clarification du mouvement M23 sur les allégations libres d'une certaine ONG » faisant allusion au CEPADO à qui on donnera la parole tout à l'heure. Dans cette lettre, je vais vous lire les points 2 et 3 qui disent, je cite, « Par sa décision de refuser de mettre en œuvre ses engagements pris à Nairobi, dont la mise en œuvre faciliterait le retour au pays des réfugiés et des ex-combattants du mouvement M23, le gouvernement de la RDC a occulté les perspectives d'un retour organisé de ses citoyens. » Paver la voie pour un retour non contrôlé et individuel. Et le point 3 dit, dans ce contexte, les rapatriés ne sont pas à plaindre lorsqu'ils utilisent leurs prérogatives en tant que citoyens de la République pour retourner au pays mère par leurs propres moyens. C'est pourquoi le gouvernement de la RDC a le devoir de mettre en place un mécanisme pour les recevoir au lieu de leur envoyer des messages de menace ou de mener la guerre contre eux, entre parenthèses, voire menace de l'ordre du général François Olinga lancé le vendredi 20 janvier 2017 de Goma. Fin de citation. Monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous répondez à cette clarification?
Non, on comprend que Bertrand Bissimois, c'est un rebelle, il ne lit pas les textes. Moi, je suis signataire, je suis plutôt co-négociateur de tous les accords tripartites entre les Rwandais, la RDC et les HCR. Je suis co-négociateur des accords tripartites entre la RDC, l'Ouganda et les HCR. Nous avons signé les accords qui organise le rapatriement des réfugiés entre nous et ces pays-là. Je ne sais pas si M. Bertrand Bissimois a lu ces accords. Il y a des mécanismes de rapatriement des réfugiés qui sont dans les pays. Or, on n'a jamais dit que chacun doit organiser la manière dont il doit rentrer au pays. C'est en fait des gens qui ont vécu dans des rébellions qui ne connaissent pas comment on organise les retours des réfugiés. Si aujourd'hui il doit commencer à croire que chacun doit prendre sa machette et son arme, revenir au pays, ce n'est pas lire et connaître les textes. D'abord, quelqu'un qui détient une arme ne s'appelle pas réfugié. Lorsque quelqu'un qui est dans un pays extérieur détient une arme, il perd automatiquement le statut de réfugié. Je dois l'apprendre à M. Bissimois et il doit apprendre à lire les textes qui organisent les retours des réfugiés dans les pays d'origine.
Merci M. le gouverneur, je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Arsène Mouaka, bonsoir. Vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique DCFN. Comment vous analysez-vous, professeur, la réapparition du M23? Vous avez suivi le gouverneur Julien Paluku qui, je le rappelais, il y a quelques mois, avait tiré la sonnette d'alarme sur les préparations d'une incursion par les éléments du M23. Pensez-vous qu'il avait été entendu et que cet appel a été pris au sérieux en son temps?
Oui, je voudrais d'abord commencer par exprimer toute ma compassion à la population congolaise de Rutshuru pour dire que finalement le cycle des violences, la spirale des violences ne fait que se déchaîner. Malheureusement, de la même manière depuis la période Mobutu, et les réactions semblent être les mêmes et malheureusement souvent les conséquences sont les mêmes. Et donc je déplore cette situation. Dès le moment où le gouverneur avait annoncé à l'opinion publique nationale internationale qu'il y avait la résurgence du M23, je crois que nombreux étaient très pessimistes. Et quand on a parlé, nombreux estimaient que ce n'était pas possible que cela se fasse. Mais je crois, à l'époque, j'avais dit qu'on connaît comment ces choses se passent. À d'autres termes, généralement, il y a toujours une petite incursion qu'on arrive à mater et après il y a un rechargement et on rebondit et finalement on est envahi et ça se termine par des négociations, des accords et certains pensent duper les autres et finalement les cycles de violence ne s'interrompent pas. Et donc je déplore grandement la résurgence de ces violences par le fait d'une mauvaise gestion de ce dossier. Et je pense que pour la première fois, le gouvernement s'efforcera de prendre très au sérieux ce dossier pour que la mouvance et l'excroissance de la mouvance AFDEL, qui s'est muée en RCD et après qui s'est muée à chose à M23 et avant d'être Kundabatoire et autres, je pense que ça doit quand même s'arrêter. Et cette manie de faire, de part et d'autre, agace le Congolais et particulièrement le Nord Kivu qui est meurtri. Et j'encouragerai le gouvernement à pouvoir tirer les leçons du passé et essayer de réagir autrement que comme d'habitude.
Professeur.
Donc c'est tout ce que j'encouragerai.
Professeur, vous dénoncez la mauvaise gestion de ce dossier pour permettre à nos auditeurs de comprendre vos propos. Qui devrait faire quoi?
Oui, la première des choses d'abord, c'est que notre armée doit se montrer capable et je félicite l'armée pour ce qu'elle a fait. Mais comme je l'ai dit, quand vous essayez de voir la manière dont les attaques de l'AFDL ont été gérées sous leur Mobutu, bon, les premières attaques sont généralement maîtrisées, mais après on rebondit, on dit que les gens sont retirés parfois dans des pays voisins et puis ils réapparaissent à partir de Massissi, on se rappelle du CNDP et autres. Et donc je crains que ce ne soit le même cycle. Je ne suis pas très optimiste pour dire que tout est maîtrisé, tout va bien, mais je voudrais dire c'est encore un autre cycle, une autre page qui s'ouvre, et j'aurais souhaité que cette fois-là, sur le plan militaire, qu'il y ait une fermeté. Ça c'est de un, de deux. S'il y a des choses que le gouvernement n'a pas eu à faire, c'est peut-être le temps de le faire avant qu'il n'y ait de grosses pertes. De trois, le gouvernement doit revoir sa politique vis-à-vis des voisins qui, généralement, ont une politique ambiguë depuis plus de 20 ans. Ils soutiennent parfois des groupes de ce genre et font semblant d'arrêter ou arrêtent carrément, mais tout a continué dans le même cycle. Et refusent qu'ils ne reconnaissent pas leur présence parfois sur le territoire national avant de reconnaître à la fin. Et donc, qu'il y ait une politique différente dans la gestion de nos relations avec les voisins, mais je pense que la clé de tout, c'est une fermeté militaire qui permettrait au pays de décourager toute possibilité d'avoir une fierté rebelle. On ne doit pas continuer à donner à des gens la possibilité d'être fier, d'être rebelle. Je pense qu'on doit avoir peur d'être rebelle si notre armée se montre à la hauteur de la chose.
Professeur, les engagements pris par le gouvernement à Nairobi, Kampala, tout ce processus, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un processus inachevé?
Oui, en fait, ça fait partie de la guerre de la région des Grands Lacs, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Congo. Le principe, c'est qu'on se bat et on parle. Et on signe parfois des papiers avec de l'encre noire ou bleue. Et on sait que c'est des papiers qu'on peut chiffonner après. Et donc, les papiers font désormais partie de la stratégie de guerre. Et dans la région des Grands Lacs, on s'étupe. Et puis, à la fin, malheureusement, c'est contre la population. Et donc, nous avons été parmi les députés. Et particulièrement les députés du Nord Kivu, nous avions dit non à toute forme de négociation et nous disions oui à des opérations militaires sérieuses. Et malheureusement, le gouvernement a signé ce qu'il a signé avec le M23 et malheureusement aussi, quand on signe, on n'exécute pas. Et donc,
merci pour ça.
Je ne donnerai pas raison à ceux qui se rebellent de pouvoir prendre les armes contre le peuple congolais. Mais je dirais au gouvernement d'être davantage responsable et de ne pas signer n'importe
Merci,
quoi.
Merci, professeur.
Quand les gens sont maîtrisés, on les maîtrise, on les traite comme tels et on assure la sécurité du pays.
Merci,
c'est
professeur.
C'est aussi de la responsabilité du gouvernement.
Merci, professeur. Maître Omar Kavota, vous êtes coordonnateur du CEPADO, coordonnateur et directeur exécutif du CEPADO, Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, une ONG congolaise basée au Nord Kivu. Comment vous analysez cette réapparition du M23 qui, d'ailleurs, dans la lettre à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, vous indexe en ce que vous lui attribuer la responsabilité du climat délétère qui prévaut aujourd'hui dans le pays en général et dans le Nord Kivu en particulier.
Merci beaucoup, M. Alain. Permettez que je commence par saluer son Excellence, M. le gouverneur de province et l'honorable Arsène Mouaka, mais aussi présenter tous mes remerciements à Radio Okapi pour cette opportunité nous offerte. Et en passant, souhaiter joyeux anniversaire à cet organe de presse au service de la paix, la liberté d'expression à RDC.
Merci.
Un organe de presse qui va fêter bientôt ses 15 ans d'existence. Et donc, quoi de plus normal que vous puissiez mériter nos remerciements et nos vœux de longévité. En résumant sur votre question, je voudrais affirmer ici que pratiquement l'histoire du Nord Kivu est en train de se répéter. On est en train de refaire la même chose et vraiment une histoire qui se répète. Parce que si vous avez bonne mémoire, nous étions dans cette émission en 2012. On était avec son Excellence Monsieur le Gouverneur ici présent. Lorsque nous étions en train de dénoncer l'évasion de notre pays par le M23, il était le premier à pouvoir nous contredire, il n'y croyait pas. Bon, heureusement, au cours de cet épisode, c'est lui cette fois-ci qui alerte l'opinion. Nous avons réalisé qu'il n'a pas été entendu. Il y a des gens qui ont mis en doute ces alertes, quand bien même nous, au niveau du CEPADO, nous l'avons soutenu au regard des éléments qui étaient probants que nous avons pu contre-vérifier. Et donc, lorsque le M23 réapparaît, ça ne nous surprend pas. Lorsque le M23 tente d'écrire contre nous cette lettre à laquelle vous avez fait allusion, vous réalisez aussi que dans cette lettre, le M23 ne nie pas son infiltration sur le territoire congolais. Et aujourd'hui, nous pensons que le monde devait comprendre l'essence profonde de l'alerte du gouverneur de province. Même si, en sortant, lui n'avait pas pris. Et il avait compris la situation en retard, voilà qu'il a compris en temps. Nous pensons que les dispositions doivent être prises pour que le M23 ne refasse pas son aventure. Tenez, au début de la semaine, ceux qui ont lu nos publications, nous venions d'alerter l'ensemble de l'opinion sur des infiltrations du M23, notamment dans les groupements de Bichoucha à chefferie de Bouito, ça c'est côté presque ouest du territoire de Rutshuru. Nous avions annoncé qu'une centaine d'éléments s'étaient infiltrés ici, du côté de Bouiza, avec à leur tête le colonel Joseph Mboneza. Nous avons alerté sur l'infiltration des M23 à Kichanga, toujours dans le territoire de Rutshuru, à Rubaya, du côté de Massissi, et à Sarambo, ça a été dit déjà, cela avait déjà été dit par l'autorité provinciale, et l'autorité provinciale avait mentionné à Sota qu'il y avait des mouvements ou de concentration de M23 qui sont du côté ougandais. Nous pouvons ajouter Kinigi du côté rwandais. Parce que ces gens réalisaient un complot. Ils étaient décidés d'éviter une nouvelle guerre. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises pour les empêcher? On a entendu qu'ils viennent à Matébé, qu'ils commencent le premier les hostilités pour les réfugiés, le revers. Nous saluons bien sûr le revers qui a été fait par les FRDC, mais nous pensons qu'on aurait dû éviter que cela ne puisse arriver, on aurait dû les empêcher à traverser et on aurait dû éviter finalement
ces
combats qui viennent d'être observés. Oui.
Maître Kavota, est-ce qu'on pourrait dire que la réapparition du M23 pourrait être la conséquence d'un processus inachevé, comme je le demandais au professeur Mouaka tout à l'heure?
Mais ce processus inachevé, tout le monde s'était opposé à la signature des accords avec le M23 à Nairobi après leur débâcle. Vous avez suivi en sautant. Nous, au niveau de l'ancien civil, nous étions opposés. Mais le gouvernement, on essaie, sur pression de quelle communauté internationale, s'était mis à signer des accords avec un groupe en débâcle. Et la conséquence, c'est que ce groupe s'est abrié par une arrogance Et aujourd'hui, il estime qu'il doit traiter des têtes d'égal à égal avec un État. Il doit agenouiller un État parce qu'il est signataire avec lui des accords. Nous, nous étions opposés à ces accords et nous pensons que les autorités au niveau national et au niveau provincial viennent de réaliser ce que nous, on était en train de redouter. Parce qu'il n'y a que ces accords qui légitiment aujourd'hui encore l'existence de ces mouvements qui étaient déjà défaits militairement.
Merci Maître Marc Avotam. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Mabella, je dis bien depuis Kisangani. Cette réapparition du M23 est à interpréter en trois manières. En premier lieu, elle est l'expression éloquente de la crise de légitimité du pouvoir, caractérisée par des violences et protestations en plusieurs séquences et circonstances à travers le pays. En deuxième lieu, elle illustre l'incapacité du gouvernement congolais à remplir sa mission régalienne, qui est celle de maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et en dernier lieu, elle prouve à suffisance que l'Est du pays en proie à la violence est devenu une terre fertile à la guerre.
Réponse, monsieur le gouverneur.
Oui, je salue la question de notre compatriote de Kisangani. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la crise de légitimité. Vous savez, nos compatriotes qui ne vivent pas au Nord Kivu, je les vois dans les réseaux sociaux, je les vois dans les médias. Je me dis finalement, dans ce pays, tout le monde se permet de raconter du n'importe quoi à la radio. Qu'est-ce que ça a à faire avec la légitimité que des gens viennent détruire une centrale hydroélectrique de Matebe, que les gens veulent venir faire une incursion, que Bertrand Bissimwa dise que les gens veulent rentrer chez eux par armes parce qu'ils ne savent pas bien interpréter l'accord tripartite. Je crois qu'il faut que les gens apprennent bien à interpréter les faits politiques dans un pays. De deux, ils disent l'incapacité du gouvernement congolais à pouvoir maîtriser la situation. Ce que les gens doivent savoir, c'est que nous sommes un État où on ne peut pas placer un militaire sur chaque porte d'une maison. Il faut que les gens le sachent, qu'aucun pays au monde, on ne verra jamais un militaire placé sur chaque porte. Il est vrai que le gouvernement a la responsabilité de sécuriser la population. Ça, on ne doute pas. Nous devons tout faire pour que le gouvernement nous sécurise et n'a jamais refusé la responsabilité du gouvernement de le faire. De trois, l'Est est une terre fertile à tout mouvement rebelle, à toute action de déstabilisation. Et il faut qu'on le sache que toutes les rébellions sont parties d'ici depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. L'AFDL, le RCD, le CNDP, le M23 aujourd'hui, ces mouvements-là ont laissé des séquelles. Ils ont laissé des armes dans la population. Personne ne l'oublie. On ne peut pas aujourd'hui croire que c'est du Bandundu, l'ex-Bandundu, c'est du Bas-Congo, je ne sais pas, c'est de l'Équateur, où on va voir la région des mouvements armés. Et vous savez que l'Ouganda et le Rwanda ont toujours eu des velléités sur la région ici. Ce n'est pas de secret. Je crois que les gens qui lisent la situation du Nord Kivu doivent savoir que nous sommes dans un bouillonnement de la région des Grands Lacs qu'il faut bien comprendre. Et lorsqu'on n'est pas ici, on s'amuse effectivement à pouvoir commenter la situation du Kivu sans y être, avec passion, parce que quand on est souvent à Kinshasa et ailleurs, eh bien on sait que la politique se réclamait des postes même quand il y a des morts. C'est ça malheureusement la RDC.
Monsieur le gouverneur, le professeur Arsène Mouaka a dit que la RDC devrait revoir sa politique vis-à-vis de ses voisins. Vous avez plusieurs fois cité le Rwanda, l'Ouganda, mais que fait la RDC par rapport à ces États? Visiblement, on est en position de faiblesse.
Oui, je suis d'accord avec le professeur. C'est que à chaque fois que nous nous sommes présentés devant ces États, nos instruments et nos outils de souveraineté se sont avérés faibles. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et que nous devons renforcer nos outils de défense pour que notre souveraineté soit effectivement protégée. Je l'ai toujours dit depuis tous ces temps, mais nous devons reconnaître aussi que ces États nous ont fragilisés par les temps passés. Vous savez que les guerres que nous avons connues ont eu les malheurs d'avoir eu la participation de nos États dans les libérations. Et c'est ça effectivement qui a fragilisé le processus de stabilisation de notre État. Et il faudra 10 ans pour que nous puissions déplumer les vampires. Et je l'ai toujours dit, la RDC
est à la croisée des chemins. Il faudrait du temps que les politiques congolais s'affranchissent de cette emprise qui est le résultat de l'histoire depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui.
Merci, monsieur le gouverneur. Professeur Arsène Mouaka, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Fidèle Mugisho Kabunga de Bukavu au sud Kivu. C'est bien cette déclaration du commandement Sokola 2. Cependant, je me pose la question, comment les ex-rebelles sont parvenus à quitter l'Ouganda et traverser nos frontières sans aucun problème? Nous estimons que nos frontières sont les moins sécurisées dans les pays des Grands Lacs. Car, à tout moment, les agresseurs viennent dans les pays voisins. Je crois qu'il serait important que la politique de la CURGL agisse pour que la RDC ait une stabilité totale.
Professeur, que la politique de la CURGL agisse, visiblement, permettez-moi l'expression, elle ne sert à rien.
Bon, moi je ne crois pas à tous ces instruments internationaux. Il est vrai qu'ils sont bons pour ceux qui parlent français, mais pour ceux qui veulent sécuriser le pays, je pense que nous avons à peu près 200 kilomètres qui demandent d'être sécurisés. Et j'ai entendu qu'il est impossible de mettre des militaires sur chaque petit coin, mais je n'ai jamais appris que les rebelles des pays voisins qui sont chez nous, malheureusement, sont arrivés à traverser, à les déstabiliser, les voisins, le Rwandais, les Ougandais, les autres. Et donc, les voisins ont maîtrisé les choses et leurs ennemis qui sont chez nous n'arrivent jamais à franchir la frontière et à déranger chez eux. Et donc, je pense que nous devons tirer des leçons et croire que la question elle est militaire. Il va falloir que nous puissions sérieusement organiser notre armée. Elle fait déjà beaucoup, mais on l'encouragerait davantage sur le maximum de 200 kilomètres qui nous sépare avec nos voisins et qui pose problème, qu'on soit en mesure de pouvoir sécuriser, que ce soit à l'aérien ou au niveau terrestre, veiller à ce que nos frontières ne soient pas poreuses, autant que le voisin réussisse à le faire. Et donc, c'est pas un miracle. Il s'agit d'une situation qui relève pratiquement de l'académie militaire et on a besoin des académiciens pour ça. J'ai difficile à croire que ça se résoudra par la CIRGL et tous les instruments internationaux. J'ai difficile à croire. Il s'agit d'une question de souveraineté et d'une question d'intégrité territoriale qui relève essentiellement de l'armée et bien sûr de la politique.
Professeur, quelle serait selon vous la finalité de ces incursions du M23? Serait-ce simplement détruire la centrale hydroélectrique de Matébé ou autre chose?
Bon, je l'ai dit, nous sommes dans une mouvance qui n'a pas commencé aujourd'hui. Tous ces acteurs-là sont des acteurs que nous avons connus avec la FDM, qui ont traversé le RCD, qui ont traversé le CNDP, qui sont M23 et je ne sais pas aujourd'hui 0M combien. Ce sont les mêmes acteurs, c'est la même dynamique et notre ami Kavot l'a dit, c'est une reproduction de l'histoire, c'est une histoire qui se répète et malheureusement les réponses congolaises aussi, même quand les régimes ont changé, se répètent aussi. Et c'est pourquoi on en appelle à un changement, on peut savoir anticiper, puisqu'on sait comment ça finira. Alors, il faut essayer cette fois-là de leur donner une autre réponse pour que nous ne puissions pas prêter à confusion et qu'il y ait des interprétations pour dire peut-être que le gouvernement connaît quelque chose ou qu'il y aurait des acteurs qui en connaissent quelque chose. Il va falloir donner une autre réponse et pas donner la réponse que Mobutu a donnée à la FDL avait attaqué le pays. Pas donner la réponse que l'oral-direct a avait donnée quand le RCD avait réagi. Pas donner la réponse qu'on a donnée hier avec le CNDP. Pas donner la réponse hier avec le M23. Et donc là où on a commis des erreurs, il faut le corriger. Et une des erreurs, et nous l'avons épinglé, et Kavota l'a épinglé, c'est de signer n'importe quoi. Puisque à chaque fois, ce qu'on présente comme une solution finit par devenir un nouveau problème et c'est un cycle interminable. Les Congolais sont fatigués avec cette manie de faire.
Merci, professeur. Maître Marc Kavota, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province du Tanganyika.
Maître Omar Mena, je vous appelle de Kalemi dans la nouvelle province de Tanganyika. Tant que nos autorités ne sauront pas s'attaquer aux causes qui engendrent des tensions dans le pays, nous vivrons les mêmes effets de manière répétitive. Qu'est-ce qui a empêché l'exécution rapide et totale des engagements pris entre le gouvernement congolais et le M23? À la lire où vont les choses, nous risquons d'observer les foyers de tension sur l'ensemble du pays, surtout avec l'avènement des Bundundia Congo dans l'ouest, comme un ensemble au centre, et conflits Bantu-Pigmé et M23 à l'est du pays.
Maître Kavota, comment vous analysez cette montée des foyers de tension à travers le pays, le M23 vient s'y ajouter?
Je voudrais saluer mon homme et confrère, Maître Omar, pour sa question. En fait, il est plutôt question ici de réfléchir à terme et d'anticipation. Parce que, sans doute, le M23 ne pouvait plus exister. Il avait été défait militairement. Mais il a été façonné par les accords. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix des accords. Même aujourd'hui, ces autres groupes qui naissent, s'il y a en réalité des groupes qui prennent du temps et qui se perpétuent, c'est parce qu'ils s'inspirent de la gestion dont était bénéficiaire le M23. Si le BDK, aujourd'hui le Bundundia Congo réapparaît, si les Kamuna Sapu réapparaissent, si il y a les Luba et les Pygmées qui s'affrontent, en réalité, on sait qu'on finit toujours, malheureusement, les conflits, même déjà qui ont pris le courage de prendre les armes, on finit par les dorloter, on signe avec qui il y a des accords, et les gens estiment que pour accéder au pouvoir, pour obtenir tel avantage du gouvernement, il faut prendre les armes, il faut encourager, il faut décourager les citoyens à penser de cette façon-là. Et c'est ici pour nous, encore une fois, le temps de dénoncer l'accord qui existe entre le M23, l'accord de Nairobi, qui lie le M23 au gouvernement. Un accord, en réalité, qu'il faut abandonner, pour que les autres ne puissent pas épouser cette façon de faire.
Alors, Maître Professeur Arsène Mouaka disait qu'il ne croyait pas aux instruments internationaux pour résoudre cette question. La RDC, finalement, sur le plan international, parce qu'elle a des partenaires, sur qui devrait-elle compter à cet effet?
La RDC doit compter sur son armée. Et elle avait prouvé en son temps en infligeant un revers au M23. Malheureusement, c'est le politique qui l'a décidé en négociant des accords là où l'armée a triomphé. Aujourd'hui, l'accord cadre existe. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, a rappelé les prescrits de cet accord cadre au niveau des articles 5 qui obligent les États voisins, les États signataires à ne pas héberger des groupes qui représentent une menace contre la sécurité de leurs voisins. Mais en violation de ces accords, l'Ouganda et le Rwanda hébergent le combattant du M23, en violation des sommations faites par la CIRGL ou encore par la SADC, il continue à héberger ses combattants du M23. Ce qui veut dire, effectivement, comme le professeur Hassan Mouaka l'a dit, ce n'est pas à travers les mécanismes régionaux ici qu'on puisse trouver solution à nos problèmes. C'est en prenant notre armée, et ici la stratégie à prendre, c'est effectivement d'amener les phares d'essai, à boucher le voie d'entrée. D'entrée à République démocratique du Congo, donc le voie d'entrée avec les États voisins et nettoyer l'intérieur, parce que nous avons dit que le M23 se sont infiltrés aussi dans la chefferie de Bouito, c'est à l'ouest du territoire de Rutshuru. S'il y a des succès aujourd'hui du côté est, il faut que l'armée nettoie le côté ouest du territoire de Rutshuru et les autres groupes armés alliés sur qui repose le M23, parce que nous l'avions dit que le M23 est en train de filtrer certains groupes armés. Au Grand Nord, il y a les corps du Christ, dans les Walikale, il y a les NDC rénovés de Guido, il y a les FDLR, un groupe d'FDLR que le M23 a déjà acquis à sa cause, les FDLR CNRD, il y a les Niatura qui sont sollicités en séjour, il y a un groupe de Maïma Imazembe qui sont en train d'être sollicités. Bref, le M23 a développé des stratégies d'éviter à généraliser le conflit sur l'ensemble de la province, de concerter les FARDC à travers le groupe qui existe et de se faire commencer carrément une nouvelle guerre à l'est du pays. Il faut anticiper toutes ces manœuvres du M23.
Merci, maître. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, très brièvement, il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Quelle devrait être l'attitude de la RDC vis-à-vis des organismes, des organisations sous-régionales telles que la CIRGL?
Oui, avant d'y arriver, je voudrais recadrer d'abord les choses à l'intention de toute l'opinion qui me suit en ce moment, de maître Omar Kavota et du professeur Arsène Mwaka. À Nairobi, le gouvernement n'a jamais signé un accord avec le M23. C'était des déclarations, c'est-à-dire le M23 a fait une déclaration, le gouvernement a fait une déclaration. Il n'y a jamais eu d'accord qui a été signé, ici le M23 signe, et le gouvernement signe. Ça, vraiment, je dois recadrer les choses. Même si Julien Paluku n'était pas d'accord que même une déclaration soit faite, parce que l'M23 était déjà défait. Donc, il ne s'agit pas d'un accord qui avait été conjointement signé entre M23 et gouvernement. Ce sont des déclarations simples. Donc, ça n'a rien à voir avec un accord, et l'opinion congolaise internationale doit le savoir. Deux, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire avec ces organismes? Le professeur, il est professeur de Sciences Po, il doit savoir qu'aucun État au monde ne peut évoluer en vase clos. Il est vrai que nous devons remettre en cause notre manière de négocier avec les instruments, disons les organisations internationales, la CIRG, la CEC, l'Union africaine, etc. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que parce que nous n'avons pas eu gain de cause dans ces organisations, nous nous retirons de ces organisations. Au contraire, nous devons penser notre manière de devoir y participer, de chercher les stratèges qui doivent également faire porter notre voix là-bas. Je crois que c'est cette manière-là que nous devons repenser et savoir qui est-ce que nous envoyons là-bas pour mieux négocier. Est-ce que les aides que nous envoyons dans les institutions internationales négocient mieux pour les comptes du Congo? C'est là la question.
Monsieur le gouverneur.
Alors pour finir, moi je voudrais...
Monsieur le gouverneur, excusez-moi, pour finir, je vous demande très rapidement un appel en Swahili à toute la population de Rutshuru qui vous suit en ce moment pour l'encourager.
Oui, nawaambia wa baba na mama Rutshuru ya kwamba waendelee kusoutenir FRDC na wapigie aksanti kwa ile kazi wako wanafanya kwa kuweza kila wakati kuambia FRDC adui iko wapi. Pia FRDC nawaambia hivi, wakati vita vinaanza, wale wajanja wanakujaka, wanaangalia kama nguvu iko namna gani, wanarudia. Tusiende kulewa maziwa kusema kwa sababu tumewapiga leo alafu tuanze kulewa kunya pombe. Lazima tuwe macho kwa sababu kesho wasije wakatukuta ndani ya vilabu vya pombe, tusiwaze ya kwamba adui amekimbia. Tuwe macho, wale watu wasije wa kuingia katika nyumba kwetu tuwapige kama vile tumewapiga leo.
Merci monsieur le gouverneur. Professeur Arsène Mwaka, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite de ce phénomène M23?
Oui, je voudrais juste encourager notre gouvernement et l'armée nationale à réagir comme tout gouvernement du monde devrait réagir. Quand on est attaqué, on ne cite pas les organisations régionales et les accords internationaux. Quand un pays est attaqué, on déploie l'armée, elle boute dehors l'ennemi et elle restaure la paix et elle revoit la politique de défense. Et donc, c'est ce que je recommande au gouvernement.
Arsène Mwaka, maître Omar Kavota, votre conclusion également.
Tout en remerciant les FRDC, je voudrais inviter toutes les communautés du Nord Kivu a plus d'unité de vigilance et de solidarité contre le M23, et je voudrais finir par inviter le gouvernement central à investir sur l'axe de la restauration de l'autorité de l'État en accentuant en renforçant les capacités des FRDC et en consolidant en fait l'autorité de l'État, comme je l'ai dit.
Merci.
En combattant, en éradiquant tous les groupes armés qui pilulent, y compris le M23 qui menace pour la RDC.
Merci maître Kéline Kouté a réalisé cette émission assistée de Mary Franklin Luchaka, mise en nom d'héritier Sidiaka, la supervision P d'équipe Elamondo, présentation et coordination Alain Rung Mouchige. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.